VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. La milliardaire Isabel Dos Santos, en guerre avec la justice et le gouvernement angolais, qui l'accuse de détournement de fonds publics, a pour la première fois évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidence de son pays. C'est possible, a indiqué la fille de l'ex-président José Eduardo Santos lors d'un entretien diffusé mercredi soir par la radio-télévision publique. Je ferai tout ce que j'aurai à faire pour défendre et servir ma terre et mon pays, a-t-elle déclaré sans autre détail. La prochaine présidentielle angolaise doit avoir lieu en 2022. L'ONU se veut rassurante en RDC. La chef de la MONUSCO a exclu l'existence de tout projet de balkanisation du pays au moment où la classe politique se déchire sur le sujet. Anne Alberson.
Les Nations Unies ont balayé mercredi toute balkanisation de la République démocratique du Congo, où la peur d'un morcellement de l'unité nationale est de nouveau agitée par des responsables publics. Le Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation, personne ne le conteste, a déclaré la patronne de la mission des Nations Unies au Congo, Leila Zerougui. La rhétorique d'une balkanisation de la RDC, orchestrée par le Rwanda, est très présente ces jours-ci dans le débat public avec la persistance des violences dans l'est du pays. L'opposant Martin Fayoulou a convoqué pour vendredi une marche à Kinshasa contre la balkanisation et les violences dans l'est, marche interdite par les autorités.
La France est particulièrement préoccupée par les violences politiques en Guinée, où le projet de troisième mandat prêté au président Alpha Condé est très contesté. Paris appelle à l'apaisement. Eki Abadou.
Nous sommes particulièrement soucieux de la situation en Guinée. Nous appelons à l'apaisement, a déclaré Jean-Yves Le Drian pendant une audition devant la commission des affaires étrangères du Palais Bourbon. C'est la situation la plus sensible dans la région et l'engagement du président Alpha Condé à demander une réforme de la constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins, a-t-il souligné. L'opposition en Guinée est convaincue que le président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, entend se représenter fin 2020 alors que la constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Monsieur Condé, 81 ans, a indiqué qu'il comptait soumettre aux Guinéens un projet de nouvelle constitution, même s'il ne s'est pas exprimé sur ses intentions personnelles. Depuis lundi, l'opposition a lancé appel à la mobilisation massive et illimitée. 3 personnes ont été tuées, 2 commissariats ont aussi été saccagés mardi à Pita, à 200 km de Conakry, la capitale.
Et l'opposition guinéenne a annoncé mercredi une suspension de ses manifestations contre un projet de troisième mandat attribué au président Alpha Condé après 3 jours de protestations ayant fait au moins 3 morts. Par ailleurs, la campagne pour les élections législatives prévue le 16 février va débuter jeudi à minuit jusqu'au 14 février selon un décret présidentiel lu mercredi soir sur les médias d'État. L'opposition qui voit en ces législatives une manœuvre du président Condé pour renforcer son pouvoir a annoncé qu'elle boycotterait le scrutin et en empêcherait sa tenue à cause de divergences avec le pouvoir sur son organisation. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a libéré 5 travailleurs humanitaires qu'il avait enlevés en décembre dans le nord-est du Nigeria en proie à une sanglante insurrection djihadiste. Ces travailleurs locaux d'organisations humanitaires internationales avaient été enlevés ainsi que plusieurs autres personnes dans 2 incidents séparés par des insurgés de l'ISWAP, une faction dissidente du groupe Boko Haram qui, déguisée en soldats, interceptait des véhicules sur une route près de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Vous suivez VOA Afrique. Le Sénat malgache, contrôlé par l'opposition, a saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation d'ordonnances à ses yeux irrégulières prises par le président Ange Rajol, qui a annoncé mercredi le président de cette chambre, Rivo Rakotovoa. Entre son entrée en fonction et l'élection de la nouvelle Assemblée nationale, le président malgache a signé 14 ordonnances relatives, entre autres, au recouvrement des avoirs illicites à Madagascar et à l'élection et à la désignation des sénateurs. Selon le président du Sénat, le président a depuis omis de faire valider ces textes par un vote à l'Assemblée nationale, ainsi que le requiert la loi fondamentale de la Grande-Île. L'Égypte a accepté de poursuivre mercredi à Washington les pourparlers sur le projet du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Selon son ministre des Affaires étrangères, le Caire craint que ce barrage construit par l'Éthiopie n'entraîne une réduction du débit du Nil bleu, fleuve dont l'Égypte dépend à plus de 90% pour son approvisionnement en eau. Les pourparlers dans la capitale américaine réunissent le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte. Idrissa Seydou Dia.
L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont esquissé mercredi un compromis au sujet d'un immense barrage sur le Nil qui suscite des tensions régionales depuis 9 ans. Ils se sont donné rendez-vous fin janvier à Washington pour surmonter les dernières divergences et finaliser un accord. Début novembre, sous la houlette des États-Unis et de la Banque mondiale, les trois pays africains avaient fixé à ce mercredi la date butoir pour aboutir à un accord sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance voulu par Addis Abeba.
Crise libyenne, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle tous les pays à soutenir fermement la conférence de paix pour la Libye qui se tiendra dimanche à Berlin et les belligérants à confirmer la cessation des hostilités dans un rapport émis hier au Conseil de sécurité de l'ONU. En se félicitant de la tenue de la conférence de Berlin à laquelle il va assister, le secrétaire général de l'ONU rappelle qu'elle vise à unifier la communauté internationale afin de mettre un terme au conflit et revenir à un processus politique en créant les conditions nécessaires à un dialogue interlibyen.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Chargé de juger Donald Trump à partir de mardi, les sénateurs américains prêtent serment aujourd'hui devant le chef de la Cour suprême qui présidera ce procès en destitution historique. Le dossier d'accusation contre le président américain, le troisième seulement de l'histoire des États-Unis à faire face à un tel procès, a été officiellement transmis hier au Sénat. Donald Trump devra répondre de 2 chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Il est accusé d'avoir exercé des pressions pour convaincre l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival à l'élection présidentielle de novembre prochain. Donald Trump avait été mis en accusation le 18 décembre par la Chambre des représentants où l'opposition démocrate est majoritaire lors d'un vote d'impeachment qui avait, à de très rares exceptions, strictement suivi les lignes partisanes. Les médias officiels chinois ont salué jeudi la signature de l'accord commercial préliminaire arraché de haute lutte avec les États-Unis, mais averti que des incertitudes planaient encore sur les relations bilatérales. Le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He ont signé mercredi à Washington un accord très attendu, synonyme de trêve dans la guerre commerciale que se livrent les deux pays depuis 2018. Pékin a notamment promis d'acheter sur 2 ans pour 200 milliards de dollars de biens et services supplémentaires aux États-Unis par rapport à 2017 et de ne plus forcer les entreprises américaines à transférer du savoir-faire en Chine. En Russie, le président Vladimir Poutine a désigné hier comme nouveau premier ministre le patron du fisc, Mikhaïl Mishustin, inconnu du grand public. Irénée Manongbo.
Vladimir Poutine a présenté la candidature de Mikhaïl Mishustin à la Douma. La chambre basse du Parlement russe doit maintenant valider cette nomination. Elle fait suite à l'annonce surprise de la démission de Dmitri Medvedev, chef du gouvernement depuis près de 8 ans, dans la foulée d'un discours du président russe annonçant des réformes constitutionnelles. Monsieur Poutine n'a pas révélé le contenu des futures réformes, ni quel avenir pour Medvedev, qui lui a été extrêmement fidèle. Monsieur Mishustin, son remplaçant, était à la tête du service fédéral des impôts depuis 2010. Il est aussi une nomination surprise et a la réputation d'être un haut fonctionnaire efficace. Pour le moment, il n'a fait aucune déclaration. Le Kremlin a diffusé des photos de l'intéressé en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Lors de ses mandats de 2000 à 2008, le président russe avait déjà nommé à la tête du gouvernement des responsables peu connus du public, comme Mikhail Fradkov en 2004, qui était à l'époque ambassadeur auprès de l'Union européenne.
Plus de 500 personnes, principalement des enfants, sont mortes en 2019 en Syrie, dans le camp d'Al-Aul, où vivent des dizaines de milliers de déplacés, notamment des proches de djihadistes du groupe État islamique. Selon Dalal Ismail, le responsable du Croissant Rouge kurde pour Al-Aul, la malnutrition et le manque de soins médicaux pour les prématurés figurent parmi les principales causes de mortalité dans ce camp, géré par les autorités kurdes dans le nord-est syrien. Le camp accueille environ 68 000 personnes vivant dans des conditions précaires et dépendant totalement des aides humanitaires. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2020. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.